Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Un an après le rattachement de la Crimée à la Russie, les habitants disent tout le bien qu'ils pensent de Moscou. Les Britanniques découvrent les débats politiques à la télévision. Coup d'envoi cette semaine avant les élections générales en mai. Et puis la fin des quotas laitiers en Europe. Est-ce une si mauvaise nouvelle pour le secteur? Voilà le menu d'Accent d'Europe aujourd'hui. Un an après la stupéfaction internationale face au rattachement de facto de la Crimée à la Fédération de Russie, un an après les sanctions européennes contre Moscou, un an après la quasi-paralysie diplomatique, un an après, comment va la Crimée? Notre correspondant Étienne Bouche est allé sur place, il a rencontré des habitants, dans leur grande majorité satisfaits de dépendre de Moscou, surtout en contemplant le chaos qui règne dans l'Ukraine voisine. Reportage à Simferopol et Sébastopol.
Dans les rues de Sébastopol, les gens sont encore bien couverts. Le thermomètre contredit le calendrier, le printemps n'est pas tout à fait arrivé. Cette ville portuaire a toujours été un symbole pour la Russie qui y stationne sa flotte depuis le XVIIIe siècle. À la chute de l'URSS, Sébastopol a conservé un statut spécial au sein de l'Ukraine. Ici, la population manifeste un attachement particulier à la Russie. Le 18 mars, jour désormais férié sur la péninsule, les habitants n'étaient pourtant pas très nombreux à assister au défilé militaire. Mais sur la place de l'amiral Nakhimov, on se réjouissait du retour au sein de la mère patrie.
Tout le monde est très heureux ici, il n'y a pas d'occupation. Je tiens à remercier Vladimir Poutine, nous l'aimons tous beaucoup. C'est vrai que j'aime l'Ukraine et les Ukrainiens, mais beaucoup moins la politique qui est menée actuellement. Il y a un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui dans le pays que nous n'avions pas envie de voir ici. Ici, c'est la stabilité à l'ombre d'une grande puissance. Je sais ce qu'il se passera demain, dans un an.
C'est ce que nous voulions depuis longtemps, un vrai chef d'État. Aujourd'hui, nous avons accès à plus de marchandises, à de nombreux produits de consommation. Plus d'événements sont organisés aussi, comme des concerts, des groupes à la mode sont en tournée chez nous, alors qu'avant, personne ne venait jamais ici. Et puis, il y a la fierté de la patrie, c'est le plus important. Mes parents sont nés à Sébastopol, en URSS. Ils sont donc russes, et moi, je me suis toujours considérée russe.
Nous sommes nés à Sébastopol. Du coup, je ne connais personne qui serait contre leur attachement à la Russie. Et tout ce qu'on peut vous raconter en boucle, ça fait plus rire qu'autre chose. Venez donc voir le 9 mai, il y aura de l'ambiance lors des festivités.
Le 9 mai est l'un des jours les plus importants en Russie. On célèbre la victoire de l'URSS et de ses alliés sur l'Allemagne nazie. Parmi ses habitants rencontrés au bord de la mer Noire, il y avait aussi Victor, ému au point de déclamer des poèmes qu'il a lui-même écrits. Il avait sorti son uniforme et ses médailles pour l'occasion.
Nous sommes enfin rentrés à la maison, en Russie. J'ai servi 15 ans en Russie, puis 5 ans en Ukraine pendant la transition, mais j'ai toujours été au service du monde slave. Le drapeau que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'URSS.
Un an après la tenue d'un référendum jugé illégal par les pays occidentaux, les habitants de Crimée continuent de soutenir majoritairement leur intégration au sein de la Russie. Les arguments avancés sont souvent les mêmes, formulés de la même manière. Andriy Krysko milite pour la défense des droits de l'homme en Crimée. Selon lui, cet unanimisme s'explique par une lecture unique des événements dans les médias.
Les électeurs jusqu'ici plutôt passifs, ce sont eux qui sont aujourd'hui favorables à la Russie. Et l'état de guerre dans l'est de l'Ukraine a une influence amplifiée par la propagande qui joue sur la peur. On leur répète qu'ils ont échappé de justesse au même genre de conflit. Aujourd'hui, les gens sont prêts à faire avec une situation économique et sociale dégradée, pourvu qu'il n'y ait pas la guerre.
Car des problèmes économiques, il y en a. Coupée de l'Ukraine, la Crimée se retrouve dans une position délicate. Elle est désormais ravitaillée par la Russie, mais en l'absence de liaison physique, les prix ont sensiblement augmenté. Le transport coûte cher. Alexandre Bassov, directeur de la chambre de commerce de Simferopol.
Le prix de certaines marchandises a doublé, voire triplé. Le prix de la viande, par exemple, il a été multiplié par 2, celui des œufs et de la volaille par 3. Or, les produits transitent par le détroit de Kerch et c'est très cher. Ce que nous proposons, c'était mon discours au Parlement, c'est de supprimer les droits de passage pour la traversée.
Le détroit de Kerch relie la Crimée et la Russie. Aujourd'hui, c'est une société de transport maritime rattachée au ministère russe des Transports qui assure la liaison entre les deux rives. Les autorités envisagent la construction d'un pont qui enjamberait ce détroit. Selon le quotidien national Nezavissimaya Gazeta, la Crimée fait désormais partie des régions les plus subventionnées par l'État au niveau de la Tchétchénie et de l'Ingouchie. La Crimée ressemble à l'Ukraine en miniature, écrit le journal. Elle n'est pas autosuffisante mais dépendante de l'aide extérieure. Le montant des retraites et le salaire des fonctionnaires ont certes augmenté. La Crimée subit aussi les sanctions économiques adoptées par les États-Unis et l'Union européenne. Les investisseurs étrangers la boudent et le système bancaire est très perturbé. La péninsule doit également assurer sa sécurité énergétique. Pour autant, ces difficultés ne semblent pas affecter le sentiment général. Les Criméens estiment que la situation est transitoire et c'est l'adhésion au projet national qui l'emporte. Sur la péninsule, le pouvoir russe a pris ses marques. Les plaques des bâtiments officiels ont toutes été changées. Des forces militaires ont été déployées. Sur la place centrale de Simferopol, Lénine est bien stable sur son socle. En Ukraine, l'icône de la révolution soviétique a plusieurs fois mordu la poussière l'année dernière. À Simferopol, sa restauration lui a offert une seconde jeunesse.
Order, order. The Prime Minister will know that the use of the word hypocrisy in relation to an individual member is not parliamentary. Therefore, just before order, order. Just before the Prime Minister begins his reply, I would ask him to withdraw that term straight away.
I'm very happy to do that, Mr. Speaker.
La vie politique britannique est ainsi faite. On se bat à fleurets mouchetés dans l'enceinte du Parlement. On se raille, on se moque, parfois avec brio. Mais on dédaigne le combat en face à face lors d'un débat télévisé. À un mois des élections générales, les Britanniques auront quand même droit à leur show sur la petite lucarne. Ce sera jeudi prochain. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondante à Londres. On peut dire sans se tromper que le débat politique ne fait pas encore naturellement partie du paysage politique britannique.
Non, pas du tout. Et d'abord, il faut se rappeler que les Britanniques ne votent pas pour ceux qu'on voit débattre à la télévision. Ils n'élisent pas directement leur Premier ministre, ils élisent leurs députés. Ils doivent choisir celui ou celle qu'ils estiment les représente le mieux au niveau local. Et le Premier ministre sera tout simplement le leader de la majorité parlementaire. Les tout premiers débats télévisés ont eu lieu il y a 5 ans seulement, en 2010, pour les dernières élections. Et si l'exercice ne s'est pas imposé plus tôt, c'est peut-être parce que la politique a déjà chaque semaine sa dose de combat au Parlement, où chaque leader se fait face et n'épargne pas son adversaire, même si en apparence tout cela est très policé. Nous sommes entre gentlemen. Par exemple, les leaders ne s'adressent pas directement la parole, ils s'adressent au président de la chambre, Mr. Speaker, si bien que quand ils parlent l'un de l'autre, c'est à la troisième personne avec la formule consacrée, l'honorable membre, etc. Aujourd'hui, la forme est toujours aussi ampoulée, mais les attaques sont basses et personnelles, les débats ne volent pas forcément très haut. Adieu les gentlemen, donc alors autant leur ouvrir une arène télévisée scruté par un plus large public.
Et donc, Marie, les Britanniques ont découvert leur premier débat lors de la dernière campagne électorale.
Il y a 5 ans, donc, il y a eu 2 débats télévisés opposant les 3 partis que les sondages donnaient en tête à l'époque. Les conservateurs de David Cameron à droite, les travaillistes d'Ed Miliband à gauche et les libéraux démocrates de Nick Clegg au centre. À l'époque, c'est lui, Nick Clegg, qui avait remporté la mise. Un homme nouveau, jeune, décontracté, il a réussi à se hisser au gouvernement, à devenir partenaire dans la coalition avec les Tories, en partie grâce à ces débats. Pas étonnant donc que les conservateurs n'aiment pas l'exercice. David Cameron estime que les débats télévisés ont aspiré la vie de la campagne électorale de 2010. C'est pour ça que cette année, le Premier ministre a vraiment traîné des pieds.
Et ça a d'ailleurs été le premier psychodrame de cette campagne.
Exactement, les télévisions et l'opposition travailliste ont bataillé très dur pour organiser au moins un débat contradictoire entre Ed Miliband à gauche, régulièrement en tête dans les sondages, et David Cameron, parfois donné gagnant aussi dans les enquêtes d'opinion. Sauf que le Premier ministre a freiné des 4 fers, pas question de faire un débat à 2, pas question de multiplier l'exercice. La gauche s'est empressée de dire que David Cameron avait peur d'Ed Miliband, qu'il ne voulait pas défendre le bilan de son gouvernement parce qu'il le savait mauvais. Du côté des médias aussi, si la pression a été très forte, les télévisions ont menacé de laisser une chaise vide en face de Miliband si David Cameron ne montrait pas son nez.
Et puis finalement, les télévisions ont cédé.
Effectivement, et on se retrouve donc avec 4 rendez-vous qu'on ne peut pas tous appeler des débats. Il y aura bien 2 véritables débats. D'abord, le 2 avril, avec les 7 chefs de partis principaux, ça fait du monde sur un plateau. Et il y aura aussi un autre débat, à 5 cette fois, c'est un débat entre leaders des partis d'opposition uniquement. David Cameron ne sera pas là, et Nick Clegg, le Premier ministre adjoint, non plus. Le gouvernement dit que les télés n'ont pas invité Nick Clegg. D'autres sources disent que c'est Cameron qui a empêché Clegg de participer à ce débat-là parce qu'il ne voulait pas être le seul absent. Le psychodrame n'est donc pas terminé. 2 autres émissions doivent en théorie remplacer les débats. La première a eu lieu la semaine dernière. Ed Miliband et David Cameron étaient les participants, sauf qu'ils n'étaient pas face à face. Ils répondaient chacun de leur côté aux questions des journalistes et du public. Tout était orchestré pour qu'ils ne se croisent jamais, même dans les coulisses. La même formule est prévue pour un tout dernier exercice le 30 avril. Cette fois, Miliband, Cameron et Clegg parleront à côté les uns des autres.
Et les Britanniques, ils pensent quoi de tout ce micmac ?
On ne leur a pas vraiment demandé leur avis en fait, mais on sait que les débats de 2010 avaient eu beaucoup de succès. 9,4 millions de téléspectateurs pour le premier, moitié moins 4,1 millions pour le second, ce qui était encore un très bon score. Pour cette campagne 2015, les chiffres sont à la baisse. La première émission de jeudi dernier a rassemblé 2,6 millions de personnes devant les écrans. Mais le show du 2 avril devrait donner une mesure plus juste de l'intérêt des Britanniques pour cet exercice.
Merci Marie Billon, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
C'est un sacré bouleversement qui touche cette semaine le monde agricole en Europe. Les quotas laitiers, introduits en 1984 pour éviter les surplus et stabiliser les prix, vont disparaître. Retour à la loi du marché avec tout ce qu'elle peut avoir de violent. Certains vont y gagner en produisant plus, mais d'autres vont aussi perdre. En tout cas, il va falloir s'adapter très vite. Écoutez le point de vue très critique de l'eurodéputé écologiste José Bové, interviewé par Catherine Roland.
Grâce aux quotas laitiers, même s'ils étaient imparfaits, on a pu maintenir une cohérence entre les volumes et les prix. C'était ça le but. Donc il y avait une stabilité, le paysan savait où il allait, et je dirais même que l'industriel savait où il allait, parce qu'il avait toujours un prix stable de la matière première. Là, il va y avoir une volatilité absolument extraordinaire des prix. Certains vont être incités à produire plus. On va voir ça en Bretagne, on va voir ça en Irlande, on va voir ça, j'imagine, dans certains pays ou certains landers de l'Allemagne. Et donc, il va y avoir une course à la production. Tout ça, ça va se fracasser avec la production néo-zélandaise ou américaine. Et donc, les prix vont fatalement baisser. Alors, on a fait croire aux agriculteurs que s'ils étaient capables de s'organiser en ce qu'on appelle des OP, des organisations de producteurs, pour négocier les contrats avec les industriels, ils s'en sortiront. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc, c'est panique à bord à Bruxelles. Alors, ils essayent de nous dire, non, mais vous allez voir, il n'y aura pas de problème. Sauf que le Parlement européen, dans sa commission agricole dans laquelle je siège, vient de tirer la sonnette en disant, il faut aujourd'hui retrouver des outils.
Alors, est-ce que justement les producteurs de lait, est-ce qu'ils n'ont pas la tentation d'adopter le modèle majoritaire exporté par les anglo-saxons, c'est-à-dire de faire des fermes-usines, en fait, avec le plus de vaches possible pour produire le plus de lait possible pour s'en sortir?
À mon avis, ça va être une tendance pour certains, sauf qu'ils ne se rendent pas compte. Actuellement, on a des faillites en élevage laitier, et ceux qui sont en faillite, ce ne sont pas les plus petites fermes. Ce sont des gens qui se sont modernisés, qui ont augmenté leurs troupeaux et qui ont mis par exemple en place ce qu'on appelle des robots de traite. C'est-à-dire les vaches vont se faire traire toutes seules sans paysans. Le problème, c'est que ça augmente tellement les coûts de production, autour de 40-44 centimes du litre, ce qui est énorme. Donc si demain le lait, au lieu d'être à 30 centimes, dégringole à 20 ou 22, ces gens-là, en 3 mois, ils sont en faillite. Alors on va nous dire, c'est bien, ça va permettre de concentrer, et donc la fois après, il y aura encore moins de paysans. Et aujourd'hui, les seuls qui ont un intérêt à ça, ce sont les grands groupes laitiers. C'est Lactalis, c'est Danone, c'est quelques autres au Danemark ou en Allemagne. Et surtout, ce qui les intéresse maintenant, c'est plus le lait en termes de matière première, c'est utiliser toutes les sections du lait, de fraquer le lait pour vendre les différentes molécules au meilleur marché.
Une dernière question, quelle est la solution pour l'éleveur pour s'en sortir, de faire des produits de très bonne qualité ?
Alors, je crois que pour un éleveur, mais un éleveur sait à peu près réfléchir en général, donc je ne suis pas inquiet, c'est d'abord de maîtriser ses coûts de production, c'est d'avoir un élevage qui soit à l'herbe. C'est-à-dire que si on nourrit ces vaches à l'herbe et aux céréales produites sur l'exploitation, on arrive à réduire les coûts, on est dans l'équilibre. Si en plus on a la chance d'être dans un territoire où il y a des appellations d'origine, on est là sur des logiques de maîtrise. Donc, tout n'est pas perdu pour un certain nombre de territoires. Je pense aux gens qui font du comté, je pense à des gens qui peuvent faire du camembert sous appellation, il y a plein d'autres appellations. On peut résister dans ce cadre-là.
Et justement, l'appellation d'origine contrôlée, ou si l'on parle du label européen, l'appellation d'origine protégée, c'est une stratégie pour tous ces producteurs de lait qui craignent une chute brutale des prix. En France, en Bresse, près de la frontière suisse, des éleveurs et des coopératives ont fait le pari de la qualité pour leur lait, mais aussi pour leur beurre ou leur crème. Reportage sur place, signé Laurent Berthaud.
Première sortie de l'année pour le troupeau de Charles Bernard. Cela fait près de 4 mois que ces 90 vaches laitières n'ont pas brouté d'herbe fraîche. Elles se précipitent vers une pâture tout près de la ferme, heureuses de retrouver l'herbe tendre.
Dès que les jours rallongent et que le soleil est là, on sent tout de suite leur impatience à vouloir sortir.
Et c'est justement ce mode d'élevage et d'alimentation qui a permis de répondre au cahier des charges AOC.
C'est que les vaches consomment de l'herbe en été, l'herbe pâturée. L'hiver, c'est de l'herbe conservée sous toutes ses formes. Et c'est aussi l'hiver complémenté par de l'ensilage de maïs. On a construit après notre cahier des charges sur cette complémentarité tout au long de l'année entre l'herbe et le maïs.
Chaque année, Charles Bernard vend ses 544 000 litres de lait AOC, 6 centimes de plus par litre à la coopérative d'Étré, dont il est l'ancien président. Une démarche qui devrait le mettre à l'abri d'une baisse des cours.
On espère. C'est un pari sur l'avenir qu'on a fait et on espère qu'on ne s'est pas trompé. Enfin, moi, je suis confiant.
Comme le lait de Charles Bernard, celui d'une soixantaine d'éleveurs de la région, dont 37 en AOC, est acheminé par camion à la coopérative d'Étré, son directeur Vincent Favier.
Donc ça, c'est le camion de collecte qui tourne la nuit. On collecte le lait après la dernière traite du soir. Et puis ensuite, le lait à 4h, à partir de 4h du matin, commence à être travaillé dans l'usine, réparti dans tous les ateliers de production.
Car pour vendre et valoriser ce lait, il a aussi fallu créer toute une filière AOP en aval, en beurre et crème, des produits d'exception à forte valeur ajoutée.
On arrive sur la partie crème.
Qu'est-ce qui fait que cette crème est AOP ?
Elle respecte toute la cahier des charges, donc ça concerne la ferme, ce soit au niveau de l'alimentation, ce soit au niveau du cheptel, ce soit au niveau du refroidissement du lait dans le tank. Ensuite, on opère un tri à la collecte, parce qu'on n'a pas l'ensemble de nos fermes qui sont dans le cahier des charges. On collecte ces fermes-là en premier, dans la soirée. Et ensuite, le lendemain, on débute la partie cahier des charges usine, où là, il faut respecter tout ce qui est température, pompage, parce qu'il faut le minimum de pompage au sein de l'usine pour ne pas détériorer la matière grasse. Et puis ensuite, je vous dis, on arrive sur des paramètres de production où il faut respecter tout ce qui est consigne de température, de maturation, durée de maturation, d'ensemencement.
Voilà. Donc la crème AOP est vraiment chouchoutée ici, hein, par rapport à la crème...
La crème AOP est chouchoutée, oui. On en prend énormément soin, c'est la renommée de l'entreprise. On distribue beaucoup auprès des restaurateurs, on a de nombreux chefs étoilés qui sont nos clients. C'est ces produits-là qui nous permettent aussi de s'épandre un petit peu. Aujourd'hui, avec une AOC, ça nous permet de vendre nos produits sur la France entière, parce qu'on est trop petit pour envisager ça, mais sur plusieurs magasins qui sont dans d'autres régions.
Chaque année, ce sont ainsi 250 tonnes de crème, mais aussi 100 tonnes de beurre AOP qui sortent de la laiterie d'Étré. Des produits un peu plus chers, mais nettement plus goûtus, j'ai testé pour vous. Ils devraient permettre à la coopérative de ne pas trop sentir la chute des cours, alors que beaucoup de laiteries ont dû fermer récemment dans la région.
Avec la crise sur le marché laitier qui va se profiler dans les mois suivants, ça nous permet d'avoir une partie de nos produits qui sont dans un registre complètement différent, qui sont hors du créneau mondialisé et qui conserveront leur prix, leur volume, alors que tout ce qui va être produit générique vont être fortement concurrencés avec des prix qui vont être vus à la baisse, donc forcément une valorisation moindre et un paiement du lait qui va être inférieur aux producteurs.
Et parmi les clients inattendus de cette petite laiterie indépendante, des restaurateurs japonais qui chaque mois importent 600 kg de beurre AOP.
Un reportage réalisé avec le soutien de l'Union européenne. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr et sur Facebook. On vous donne rendez-vous dès demain.